Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Lueur d'espoir pour le peuple congolais. Bientôt la fin des pourparlers de Washington et des Doha entre la RDC et le Rwanda. Discussion visant à mettre fin aux guerres récurrentes dans l'Est de la RDC. C'est ce qu'a annoncé le président Félix Antoine Tshisekedi vendredi devant la diaspora congolaise vivant au Brésil. Détérioration de la qualité de réseau de télécommunication dans la province du Maniema. La situation dure depuis plus d'une semaine. L'Union des jeunes du Maniema dénonce les faits et demande l'intervention des autorités provinciales compétentes. Et puis, la commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa plaide pour la prise en compte des personnes vivant avec handicap et autres dans le processus électoral en RDC. Cela pourra renforcer, selon elle, la démocratie et ainsi crédibiliser les résultats des élections. Jean-Baptiste Ndundu, l'un des membres de cette structure, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. La signature de l'accord de paix dans le cadre des pourparlers de Washington entre la RDC et le Rwanda, c'est pour bientôt. Information livrée par le président de la République vendredi devant la diaspora congolaise vivant au Brésil. Cela en marge de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP30 qui démarre le 10 novembre. D'après Félix-Antoine Tshisekedi, il sera question par cet accord de mettre fin aux guerres récurrentes dans l'est de la RDC et qui ont déjà causé plusieurs morts. On écoute le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans ses propos sélectionnés par Jean Gando.
La joie que j'ai est de vous annoncer que les discussions dont vous avez entendu parler, qui se font à Washington et à Doha, vont bientôt prendre fin. Dans les prochains jours, les Américains, notamment la Maison-Blanche, nous enverra officiellement les invitations pour mettre fin à ces discussions par la signature d'un accord de paix. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que nous n'avons pas commencé cette guerre, mais elle nous est imposée à cause des richesses que nous avons dans notre pays, et qui servait plusieurs étrangers, mais aussi plusieurs de nos voisins pour qu'ils construisent leur pays au détriment de nos frères et de l'économie de notre pays. Mais nous nous sommes fortement battus pour mettre fin à ces souffrances. Nous arrivons à la fin pour que nous puissions cueillir le fruit, les fruits de la paix, une paix éternelle dans la République démocratique du Congo.
La RDC et le Rwanda franchissent ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en juin dernier sous médiation américaine. Selon un communiqué du département d'État américain publié le vendredi 7 novembre, les deux pays ont paraphé à Washington le cadre d'intégration économique régionale visant à renforcer la coopération et à traduire les bénéfices de la paix en développement concret. C'était lors de la 4e réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord. En réaction, la RDC salue ce paragraphe tout en rappelant que sa mise en œuvre demeure conditionnée par l'exécution intégrale des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix du 27 juin 2025. Ceci est contenu dans un communiqué posté sur le compte X du ministère congolais de la communication et médias. D'autres détails avec vous, Blaise Ndongala Mahenda.
Sous la facilitation des États-Unis d'Amérique, la RDC et le Rwanda ont paraphé le texte intégral du cadre d'intégration économique régionale. Ces documents fixent les axes prioritaires de coopération économique et de développement entre les deux pays, traduisant ainsi les dividendes attendus de la paix en opportunités concrètes de croissance et de prospérité au bénéfice des populations. Le gouvernement de Kinshasa réaffirme sa détermination à maintenir la dynamique de paix engagée et à traduire ses efforts diplomatiques en résultats concret sur le terrain dans l'intérêt de son pays et de la région des Grands Lacs. La RDC exprime en outre sa gratitude aux États-Unis d'Amérique, à l'État du Qatar, à la République du Togo pour leur accompagnement constant et leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans sa partie orientale. Entre-temps, sur terrain, les combats se poursuivent entre les rebelles de la FCM 23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la RDC dans plusieurs agglomérations du nord et du sud du Kivu. Cette situation a provoqué une crise humanitaire majeure avec des centaines de milliers de déplacés internes dans cette région.
Pendant ce temps, en Ituri, les ex-combattants ayant adhéré au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion PDDRCS vivent désormais en parfaite harmonie avec les membres des communautés locales dans plusieurs zones, notamment à Telega et Miala, à la périphérie de Bunia. C'est le résultat des dialogues communautaires organisés par l'ONG Peace Mwangaza avec l'appui de la MONUSCO dans le cadre des projets de réinsertion de ces anciens miliciens. Cependant, ces derniers dénoncent des tracasseries et menaces de certains militaires des FARDC qui, selon eux, freinent le processus de paix. Isaac Remoyope nous en parle.
Plus d'un millier d'ex-combattants issus des différents groupes armés ont déjà adhéré au PDDRCS à Ituri et vivent aujourd'hui dans leurs communautés respectives, notamment à Telega et Miala, à une dizaine de kilomètres de Bunia. La plupart affirment avoir été bien accueillis par les membres de leur communauté, témoignage du président des jeunes.
Il n'y a aucun problème. Nous vivons en paix, sans peur et d'autres difficultés dans notre milieu ici.
Ces ex-combattants ont repris leurs anciennes activités, taxi-moto, commerce, agriculture, des métiers qui leur permettent désormais de vivre autrement que par les armes. L'un d'eux, marié à quatre femmes et père d'une vingtaine d'enfants, s'est dit satisfait de cette nouvelle vie de liberté comme tout citoyen de la République.
Depuis que j'ai déposé les armes, j'ai fait le taxi très bien. Nous sommes à l'aise.
Cependant, plusieurs d'entre eux dénoncent les menaces et tracasseries sur les accès routiers malgré la carte de démobilisation qui leur a été remise pour faciliter leur libre circulation. Ces ex-combattants appelle les autorités militaires à mettre fin à ces pratiques qui, selon eux, compromettent le processus de paix en Ituri. Nous n'avons pas encore obtenu la réaction des autorités militaires ni celle de la coordination provinciale du PDDRCS à ce sujet. Bunia, Isakare Moyope, Radio Kapi.
Direction la province du Maniema. Je vous l'ai dit dans les titres, l'autorité provinciale appelée à s'impliquer par rapport à la qualité de service rendu par les maisons de télécommunication dans une sortie médiatique hier samedi. L'association sans but lucratif dénommée Union des jeunes du Maniema dénonce le silence des autorités compétentes face à la détérioration des réseaux de télécommunication. Une situation qui dure depuis plus d'une semaine. On écoute à ce sujet le coordonnateur national ad intérim et porte-parole de cette structure. Emmanuel Njadi Pascal au micro de Florence Kizalunga.
Vous êtes sans ignorer que pendant un moment, les réseaux de télécommunications Orange, Vodacom et Airtel ne favorisent pas une bonne communication auprès de la population. C'est là, les gens achètent des mégas, achètent des unités, achètent même des minutes pour communiquer avec le leur. Malheureusement, ces services ne nous rendent pas un bon service. Voilà pourquoi nous sommes venus auprès de vos micros pour dénoncer ce comportement ici. Pendant un moment, nous avons dénoncé et ces services ont essayé de mettre un peu en pratique nos déclarations. Or, malheureusement, aujourd'hui encore, nous constatons avec amertume ce service dégrade tout cela sous l'impuissance des autorités provinciales. Il y a des mégas qui expirent sans que nous soyons en communication. Nous demandons pour cette même occasion aux autorités provinciales. Sans la communication, nous ne pouvons rien faire. Nous, les bas peuples, qui achètent parfois nos minutes, nos unités et pourquoi pas aussi nos SMS avec nos moyens maigres, nous souffrons sans communiquer. Nous vous demandons d'essayer de parler avec les services de télécommunications pour que nous puissions être rétablis dans notre droit.
Dans l'actualité aussi, l'ASBEL Justice et Paix Congo et la Commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa ont organisé samedi un atelier sur la participation citoyenne des groupes marginalisés dans les processus électoraux en RDC. Ces structures de l'Église catholique affirment vouloir renforcer la crédibilité des élections à travers le pays. Des personnes vivant avec handicap ainsi que d'autres groupes vulnérables saluent cette initiative, comme l'exprime ici une albinos ayant pris part à ce forum et Edith Matondo est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cet atelier parce que le droit de vote ou de postuler, c'est un droit qui est reconnu pour tout Congolais. Étant Congolais, nous avions aussi ce droit et ce devoir de pouvoir postuler, n'est-ce pas, voter. Alors participer à cet atelier, c'est un honneur pour moi parce que ça va, n'est-ce pas, nous munir de beaucoup de compétences ou capacités pour pouvoir défendre notre droit là où c'est lésé et pouvoir porter aussi très haut la voix de personnes marginalisées. J'ai déjà vu aussi des personnes qui ont rencontré beaucoup de difficultés, notamment dans des bureaux de vote. Je cite les personnes non non-voyants et aussi de personnes avec handicap moteur. Très difficile pour eux d'accéder au bureau de vote, surtout quand il y a une foule. Très souvent, ces personnes-là sont mises en écart. Ils n'arrivent pas à précipiter des places et encore moins à pouvoir voir comment faire et toutes ces choses-là. Alors, j'aimerais au fait que, à chaque processus électoral ou au moment des élections, si possible, de pouvoir mettre en place un bureau uniquement pour de personnes avec handicap. Parce que la fois dernière, en 2023, j'ai été témoin, j'ai vu combien des handicapés moteurs et aussi de non-voyants ont eu du mal, vraiment du mal à voter. Mais s'ils ont un bureau uniquement pour eux, ils peuvent venir plus facilement et accéder, n'est-ce pas, au vote.
Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cet atelier, notamment les défis liés à la participation électorale des femmes en RDC, ainsi que le contexte, les enjeux et les perspectives pour une démocratie inclusive dans le pays. La journée de l'écrivain africain a été célébrée le 7 novembre. À cette occasion, l'association des jeunes écrivains du Congo, AGECO Kasaï Central, s'est plaint du manque des maisons d'édition en province. Dans une interview vendredi à Radio Kapi, Félicien Ngalamouloumé, coordonnateur provincial de l'AGECO, rassure de la détermination des jeunes écrivains à produire des œuvres littéraires malgré l'absence des éditeurs. On l'écoute dans cet extrait choisi par André Katende.
Pour le moment, au Kasaï Central, nous sommes en train de souffrir. Non seulement il n'y a pas de maison d'édition, mais les imprimeries qui assurent la promotion du livre, il n'y en a pas autant. L'absence totale des maisons d'édition, je trouve que c'est l'une des grandes difficultés auxquelles font face les écrivains du Kasaï Central. Voilà pourquoi nous voudrions lancer un message, pas seulement aux autorités, mais aussi et surtout de manière très pathétique à tous ceux qui se donnent à la littérature, tous les écrivains, tous ceux qui ont déjà découvert l'importance de la plume. Nous sommes en train de leur demander de ne pas baisser les bras. Nous ne devons pas seulement attendre que d'autres personnes viennent implanter pour nous des maisons d'édition au Kasaï Central. Nous ne devons pas seulement attendre que d'autres personnes viennent faire la promotion du livre à notre place. C'est nous-mêmes qui sommes auteurs et c'est nous-mêmes qui devons tout faire. Si nous faisons le premier pas, je crois qu'il y a aussi d'autres personnes de bonne volonté qui pourront s'élever afin de nous accompagner.
Dans l'actualité, sachez aussi que Madame Bonnette Elombe, cette enseignante de l'EP7 Yolo Sud à Kinshasa, a été conduite hier à sa dernière demeure dans une atmosphère de profonde émotion. Décédée le 20 octobre dernier, elle a été honorée par une veillée mortuaire à l'espace Ave Maria le vendredi, suivie d'une cérémonie d'hommage et enfin l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lancélé. De nombreuses personnalités, dont le vice-ministre de l'Éducation nationale, les membres du gouvernement provincial, élèves, enseignants, journalistes, comédiens et membres de la société civile ont pris part à ses funérailles. Tous ont salué la mémoire d'une éducatrice passionnée, connue pour sa méthode Elombe, c'est-à-dire mêlant chant, danse et apprentissage, ce qui est devenu un symbole de dévouement et d'innovation dans l'enseignement congolais.
Actualité internationale.
Les États-Unis ne seraient représentés par aucun responsable au sommet du G20 qui se tiendra à Johannesburg le 22 et 23 novembre en cours. Décision du président américain Donald Trump, il l'a fait savoir vendredi. Initialement, le vice-président américain devait représenter Washington, mais cette participation a été annulée. Dans un message publié sur son réseau, le président américain a écrit « C'est un scandale que le G20 se tienne en Afrique du Sud, accusant le pays de persécuter et tuer des fermiers blancs, les Afrikaners, descendants des premiers colons européens. Il a également affirmé, je le cite, « Aucun représentant du gouvernement américain n'y participera tant que ces violations des droits humains continuent ». Fin de citation. Ces accusations sont rejetées par le gouvernement sud-africain qui estime qu'elles ne reposent sur aucun fait avéré. Pretoria souligne que l'Afrique du Sud demeure engagée en faveur de la solidarité, de l'égalité et de la durabilité au sein du G20. Et puis, au moins 6 personnes ont été tuées et 750 blessées vendredi dans la ville de Rio Bonito, au sud du Brésil. C'est à la suite d'une tornade qui n'a duré que quelques minutes, mais elle a renversé des voitures et détruit des maisons entières dans cette localité de 14 000 habitants. Les autorités locales ont décrété l'état d'urgence.
L'invité.
L'ASBEL Justice et Paix Congo et la Commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa plaident pour la participation citoyenne et l'inclusion des groupes marginalisés dans le processus électoral en RDC. Invité de Radio Kapi, Jean-Baptiste Ndundu, l'un des membres de la Commission Justice et Paix de la paroisse Saint-François des Salles, affirme que la prise en compte des personnes vulnérables, comme celles vivant avec handicap et autres, va renforcer la démocratie et crédibiliser les résultats des élections en RDC. Il en parle avec Blaise Ndongala Maenda.
Bonjour monsieur Jean-Baptiste Ndundu.
Bonjour.
Vous organisez l'atelier des participations citoyennes et d'inclusion des groupes marginalisés dans les processus électoraux. Quelles sont les raisons qui vous poussent à organiser cette rencontre?
Nous sommes dans une volonté de pouvoir renforcer de pouvoir consolider notre démocratie. Qui dit démocratie dit peuple, celui qui est le détenteur du pouvoir. Et quand il y a un certain nombre de groupes qui sont mis de côté, qui sont marginalisés dans le processus, il est important de pouvoir savoir comment faire pour les intégrer. Alors, ici, on est dans un atelier pour essayer d'échanger avec ces groupes marginalisés, pour voir de quelle manière ils pourraient être prise en compte dans le processus électoral. Parce que si un processus n'est pas suffisamment intégrateur, suffisamment inclusif, il perd sa légitimité, il perd de sa consistance.
Qu'attendez-vous par un groupe marginalisé du processus électoral en RDC, car la loi électorale octroie à tout citoyen congolais de voter, voire même de se faire élire?
Oui, c'est vrai que la loi électorale permet à ce que tout celui qui a 18 ans puisse s'inscrire dans le fichier électoral et pouvoir participer au vote. Mais lorsqu'on regarde une élection, on doit le regarder aussi dans ses résultats. On a une inscription d'électeurs qui montre qu'à 51% l'électorat est composé des femmes. On a une liste des électeurs qui montre qu'à 70% il est composé de moins de 35 ans. Entre 18 et 35 ans, on a environ 70% des électeurs. Mais lorsqu'on regarde les candidats, lorsqu'on regarde les résultats des élus, on se rend compte que les femmes sont à moins de 15%, moins de 20%, que les jeunes sont à moins de 13%. Donc il y a un gros problème de représentation qu'il faut résoudre et qui peut permettre de pouvoir accroître la légitimité du processus électoral. Et si on accroît la légitimité, on peut aussi accroître la crédibilité du processus électoral.
Quelles sont les différentes thématiques retenues au cours de cet atelier?
Nous avons principalement les questions liées au contexte, aux enjeux et aux perspectives. Et on a aussi les défis liés à la participation des femmes. Mais c'est un atelier, ça veut dire que ce qui est le plus important, c'est pas tellement ce que les intervenants vont donner. Ce qui est le plus important, ce sont les idées, les besoins que les groupes marginalisés vont mettre en évidence pour essayer de voir comment on peut améliorer notre processus démocratique en République démocratique du Congo.
Quelles sont vos perspectives d'avenir à 3 ans des joutes électorales?
On souhaite évidemment que la participation des groupes marginalisés soit meilleure, particulièrement comme je viens d'expliquer dans leurs résultats. Si on peut avoir des femmes, des jeunes qui sont encore davantage présents dans les partis politiques, qui sont présents comme candidats et qui se font élire, je pense que ça c'est quelque chose de bon. Mais il faudrait qu'ils puissent aussi encadrer la période entre deux scrutins, parce que ça c'est le véritable problème. Lorsque vous avez élu des personnes, vous devez savoir pourquoi vous les avez élus et savoir les amener à faire ce pourquoi vous les avez élus. Et ça c'est un grand défi.
Avez-vous un message à lancer d'abord aux décideurs et puis aux citoyens lambda en marge de cette activité ou cette rencontre?
Nous avons effectivement énormément de problèmes avec notre processus électoral. Mais pour que nous travaillions à la crédibilité de notre processus électoral, il est important que tout le monde mette la main à la pâte, y compris les personnes que nous sommes en train de marginaliser aujourd'hui. On a besoin de tout le monde. L'union fait la force, comme on a l'habitude de dire, de manière à ce qu'on ait une gouvernance de qualité qui puisse améliorer nos conditions de vie.
Monsieur Jean-Baptiste Ndundu, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité est l'un des membres de la commission justice et paix de la paroisse Saint-François des Salles. Il s'entretenait avec Blaise Ndongala Maenda. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.